C'est étonnant, non? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de boissons, alcoolisées.
C'est à boire, c'est à boire et qu'il nous faut. Oh, oh, oh.
Je vais vous parler précisément de liqueurs. Ces liqueurs qui parcourent toute notre belle région de France. Alors visiblement, la distillation, on l'attribue en France à un ecclésiastique du XIIIe siècle qui s'appelait Arnaud de Villeneuve. Malgré son nom de Villeneuve, il est d'origine espagnole. C'est un médecin, un théologien, un homme incroyablement brillant qui est venu en France pour obtenir le diplôme de maître S. Ar. Il a reçu l'enseignement de Roger Bacon, Thomas d'Aquin. Il a rencontré le pape Clément V avec lequel il est devenu ami. À l'époque, il n'était pas encore pape. Il a rappelé plein de principes de théologie et de médecine, et c'est à lui qu'on attribue la distillation. Lui, la technique de distillation, il ne l'a pas inventée. Il a mis au point des choses qu'il a plus ou moins récupérées. Pour lui, la distillation a été mise au point dans les milieux alchimistes gréco-égyptiens par un grand homme qui s'appelait Zosime de Panapolis, et elle a été développée après par les médecins alchimistes de l'Empire musulman. Et à partir des années 1260 environ, les techniques de distillation sont arrivées dans l'Occident latin, mais pour produire de l'eau-de-vie de vin, il fallait avoir des alambics, ça on savait les fabriquer, mais ce qui posait surtout problème, c'était le système de refroidissement. Le refroidissement, donc il fallait que la vapeur passe dans un serpentin qui soit refroidi en permanence par de l'eau fraîche, et ça c'était compliqué techniquement. C'est ce qu'il explique en fait dans un de ses traités, il en a écrit de nombreux. We'll be right back. Le premier et le plus important des alcools distillés, en France, un des plus célèbres également, c'est le cognac. Alors, le cognac est né en Charente, alors on ne sait pas trop exactement quand, mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'à partir du XVIe siècle, les commerçants anglais et hollandais, qui se pressaient déjà sur le territoire par le jeu des alliances royales, ont fait les premiers la commercialisation de ces eaux-de-vie. Et on peut constater d'ailleurs que la plupart des négociants actifs venaient des îles britanniques. Ça se sent sur leurs noms. Martel, Hein, Otard, Hennessy. Le cognac se décline de plusieurs façons. On commence avec le 3 étoiles, ensuite on a toute une gamme. Les plus connus sont la vieille réserve et bien sûr le Napoléon. Voilà, pour le cognac en terre charentaise, qui constitue effectivement quelque chose de très connu. Son grand équivalent du sud-ouest va être l'Armagnac. Alors l'Armagnac, c'est le pays de D'Artagnan. Les Armagnacs et les Bourguignons, au début du XVe siècle, ne se faisaient pas de cadeaux. Une partie qui est du côté anglais, une partie qui est du côté français. Jeanne d'Arc en a fait les frais. Bon, c'est ainsi, je ne veux pas développer cette chose, d'autant plus que nous sommes plus ou moins dans une période de baston. Mais bon, l'Armagnac, c'est le grand alcool de Gascogne. Alors le négoce vient de très très loin. La différence avec le cognac, c'est que l'Armagnac peut être millésimé. Il va y avoir des assemblages, il va y avoir beaucoup de choses. Et il y a des grandes maisons d'Armagnac qui sont toujours là, et qui sont depuis longtemps dans le circuit. Je pense à la plus âgée, Castarède, mais aussi Jeannot, et La Ressingle, maison très connue à Condon, D'Artigalongue à Nogaro, Saint-Malins à Langusanne, Trépoux et Gélas à Vic-Fezensac, grand lieu de fête taurine, Carré à Lannepax. Très souvent, ce sont des propriétés familiales, et très souvent, ces Armagnacs vont faire par la suite, comme le cognac fait du pinot, une chose magnifique qui s'appelle le floc. Alors la transition des Armagnacs aux Bourguignons est facile, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, et nous allons parler maintenant d'un produit très fameux sur le territoire bourguignon, c'est la crème de cassis. Au XVIIIe siècle, on a commencé à faire macérer des grains dans de l'alcool, et il y avait déjà des cassissiers qui étaient plantés dans les vignobles de la Bourgogne. Je ne sais pas si vous êtes promené en Bourgogne, mais au bout des vignes, souvent il y a des fleurs, mais il y a aussi des baies. Alors maintenant, évidemment, le cassis a pris une expansion très très grande. En 1841, début 19e, il y a une recette de liqueur de cassis qui a été déposée par Auguste Denis Lagoutte, dont le nom est toujours associé au cassis, le cassis Leger Lagoutte. Et visiblement, il s'est passé plusieurs choses après. Deux Dijonnais qui ont mis la liqueur après en faisant macérer les grains de cassis noirs de Bourgogne, et non pas des cassis qui viennent d'ailleurs dans de l'alcool, additionnés de sucre. Donc après, évidemment, ça a été un grand succès, et visiblement, le blanc cassis, et je dis bien le blanc cassis, serait un garçon de café qui aurait commencé à l'instituer en 1904. Il va y avoir tout un tas de péripéties avec cela, et il va y avoir une histoire d'amitié entre deux personnes très différentes, un député de gauche anticlérical et un chanoine. Ils étaient très amis, et sauf sur le plan des idées, ils ont été tous les deux députés, maire de Dijon, etc. Et le chanoine Kir a eu l'idée de mélanger le cassis avec un vin qui ne se vendait pas du tout bien à l'époque, qui était le Bourgogne à ligoter. C'était un petit peu ce cépage, alors que tous les autres cépages de Bourgogne sont du chardonnay, ce Bourgogne à ligoter, il faisait un petit peu pâle figure tout seul. C'est tout à fait différent maintenant, il en est d'excellent. Donc à l'époque, on l'a mélangé, ce qui fait que quand vous dites dans un établissement de boisson « je veux un kir », la plupart du temps, ce qu'on vous sert, c'est un blanc cassis. Le kir, c'est du vin blanc de Bourgogne à ligoter avec de la crème de cassis qui fait au moins 16 degrés. Si c'est de la double crème, elle en fait 20. Ça donne soif tout ça.
Au pied d'une vigne, je naquis un jour d'une mère digne de tous mes amours. Depuis ma naissance, elle m'a nourri en reconnaissance. Moi, je la chéris. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignot. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Assis sous la treille, plus heureux qu'un roi, toujours ma bouteille à côté de moi. Jamais je m'embrouille, car chaque matin je me débarbouille dans un verre de vin. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et champagne, approchez un peu. Et vous vins d'Espagne, malgré tous vos feux. Amis de l'ivrogne, réclamez vos droits devant la Bourgogne, saluez trois fois. Aïe. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Ma femme est aimable et sur ses appas, quand je sors de table, je ne m'endors pas. Je lui dis mignonne, je plains ton destin, mais ma bourguignonne jamais ne s'en plaint. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon.
Cette fois, on va faire un grand voyage, puisqu'on va quitter la France sans la quitter, puisque nous sommes dans les dom-toms, où la grande production distillée s'appelle le rhum. C'est la distillation de la canne à sucre. Alors le rhum nous a accompagnés dans tous les récits d'aventure, les histoires de pirates. Il y avait toujours quelqu'un qui en avait abusé, les histoires de la marine. Le rhum est quelque chose qui a accompagné les marins. Alors pourquoi plus le rhum qu'un autre alcool? On ne sait pas. Il y a sans doute une raison, c'est qu'il s'exportait facilement et il se transportait facilement. Et enfin, une autre raison évidente, c'est comme ces endroits étaient des îles, bien évidemment, il y avait des bateaux autour. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working
Sean is mighty queer, like the Yankee girl, the native swoon. When she heard her bingle croon, drinking rum and Coca-Cola, broke down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, G.I. romance with Native Peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
It's a fact, man, it's a fact.
Rum and Coca-Cola.
Cette chanson des Andrew Sisters, qui s'appelle Rum and Coca-Cola, correspond tout à fait à un cocktail qui s'appelle le Cuba Libre, qui est fait de rhum, de Coca-Cola, qui se sert directement sur glaçon. On va revenir en France hein, pour parler un petit peu de liqueurs de fruits. On a évoqué le cassis tout à l'heure, et maintenant on va évoquer deux liqueurs d'orange, le Cointreau et le Grand Marnier. Alors, le Cointreau, c'est ce qu'on appelle un triple sec, c'est-à-dire quelque chose qui est distillé trois fois. Il faut savoir que les frères Cointreau, qui sont deux, Adolphe et Édouard Jean, commencent d'abord par fabriquer du guignolé, qui est un alcool de cerise. On en fait toujours, hein, le fameux guignolé kirsch. C'est quelque chose de très très bon. Alors bon, toutes ces choses-là sont assez sucrées, elles font quand même partie des liqueurs. Cointreau dépose son brevet en 1885, même s'il l'a fait 10 ans avant. Il le pose parce que l'Apostole, le créateur de Grand Marnier, a créé sa marque en 1880, 5 ans avant. C'est-à-dire que quand il a fait sa liqueur, il ne lui a pas vraiment donné de nom. Le nom Grand Marnier a été donné par César Ritt, le créateur du fameux hôtel qui porte son nom. Et ces deux liqueurs d'orange, là, qui sont très très fines, appartiennent maintenant à des grands groupes. Grand Marnier, je crois, appartient à Campari, Cointreau. Ils avaient fait une association, visiblement, avec le cognac Rémy Martin. Les deux liqueurs existent toujours, on peut les boire purs à la fin des repas, mais on s'en sert aussi beaucoup en pâtisserie, parce que leur parfum est absolument extraordinaire.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé.
Non,
tu
vous êtes fou,
volé, volé,
c'est pas moi,
volé,
j'ai pas volé,
volé
l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait.
Non, 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 non.
Oui, c'est bien toi qui l'a volé, pour quelqu'un qui t'a vu.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange.
Mais non, mais non, non, non.
Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non, non, non.
Tu as volé.
C'est pas moi, j'ai pas volé, pas la volé l'orange. J'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait, tu auras la corde au cou.
Vous êtes fou, non?
Pour toi ce jour, c'est le dernier.
Non.
Tu es qu'un sale voleur.
J'ai rien fait, non.
D'abord tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé, pas volé l'orange.
Il a volé l'orange.
J'ai pas volé, pas volé, pas volé l'orange. Je suis un champion, j'ai pas volé, pas volé.
Bien entendu, si les fruits ont inspiré beaucoup les liquoristes, il en est de même des plantes. Quand on allait en boîte dans les années 80, entre 80 et 90, il y avait une chose qui était très à la mode à l'époque, c'était le Jet 27. C'était une liqueur de menthe, Peppermint Jet 27. Jet, en fait, c'était le nom des repreneurs de la société qu'avait créé un liquoriste qui avait inventé cette liqueur, qui s'appelait François Pons, en fait. Ils avaient repris la société, donc ça, c'était la fin du 19e siècle. Jet 27, et c'est pour ça que je fais la transition, appartient maintenant au groupe Bénédictine. Alors c'est très curieux parce qu'il y a deux liqueurs qu'on rapproche souvent, qui sont des liqueurs de plantes, fortes pour les deux, qui sont la chartreuse et la bénédictine. Alors autant il y en a une qui a une origine claire, c'est la chartreuse, autant la bénédictine ne l'est pas. Alors la chartreuse, c'est une histoire qui ne se passe pas dans la chartreuse actuelle à Voiron, c'est-à-dire dans l'Isère, mais qui se passe à côté de Paris. Il s'agit de la chartreuse de Vauvert. Elle était assez loin de Paris, entre guillemets, avec les transports de l'époque, puisque c'est de là que vient l'expression « au diable Vauvert ». C'était au sud du jardin du Luxembourg. Et donc, dans cette congrégation de chartreux, il y avait d'excellents herboristes, à tel point qu'il y en avait un qui était plus ou moins l'apothicaire du roi, globalement. Ces chartreux, visiblement, ont trouvé au XVIIe siècle la formule sur un mystérieux manuscrit d'un élixir de longue vie. C'est une usine à gaz, personne n'y comprend rien. L'apothicaire Jérôme Maubec qui s'en mêle, et deux siècles après, le monastère près de Grenoble produit l'élixir dans sa pharmacie. C'est l'élixir à peu de choses près qu'on connaît maintenant. Sa commercialisation se fait par un frère d'une manière très limitée, puisqu'il fait ça, le pauvre, monté sur un mulet. L'élixir est toujours très populaire de nos jours. C'est l'élixir végétal de la Grande Chartreuse qui est une pure merveille. Il y a une version verte et une version jaune. La bénédictine, c'est une autre histoire. C'est un vrai sac de nœuds. Alors, il y a une légende qui dirait qu'il y aurait un élixir de santé qui aurait été mis au point au XVIe siècle, au tout début, par un moine vénitien qui serait venu à l'abbaye de Fécamp. Il aurait été herboriste, alchimiste, un peu médecin, donc il aurait distillé des plantes qu'il trouvait sur le plateau cauchois. François Ier aurait apprécié le breuvage. On n'a absolument rien qui puisse prouver cette chose-là. Une autre version explique que, quand l'ordre a été dispersé, à la Révolution française, on a retrouvé le manuscrit et qu'il aurait été racheté par un riche de Fécamp. Donc là, on est en pleine Révolution, c'est en 1791. On ne connaît pas le contenu, on trouve le document dans la bibliothèque familiale, donc il y a un de ses descendants qui retrouve la chose, et visiblement, ce descendant a un nom très curieux, il est négociant en vin, il s'appelle Alexandre le Grand. Donc ce Alexandre le Grand, visiblement, à partir de plusieurs recettes, concocte la liqueur qu'on connaît actuellement. Alors, une chose absolument incroyable, il y en a qui reculent devant rien, le texte de la fin de la bénédictine, c'est Deo Optimo Maximo, adieu très bon, très grand. Bah oui, un petit coup de pouce du très haut, ça ne fait jamais de mal dans ces coups de temps-là.
Thank you. Comme l'Angleterre et comme les Pays-Bas, le Portugal, l'Espagne, la France a eu un empire colonial. Alors un empire colonial, c'était quelque chose d'aller chercher des terres qui étaient sur d'autres continents. Mais quand on a commencé à envoyer là-bas des contingents de soldats, on s'est aperçu que certains mouraient d'une manière violente et rapide à cause des maladies qui étaient sur place. Il y en avait une notamment qui était très difficile à éradiquer, qui s'appelait le paludisme. Alors le paludisme, on s'était aperçu qu'il y a une chose qui la soignait, c'était une écorce venue d'Amérique du Sud qui s'appelait le quinquina. Le quinquina, on en avait fait une espèce de produit médical qui s'appelait la quinine, qui était extraite de cela. Cette quinine avait un défaut, c'était affreusement amer. C'était imbuvable. Donc le ministère des armées français a eu l'idée de faire un appel d'offres et de demander à des liquoristes, à des pharmaciens, de fabriquer quelque chose qui soit buvable par les soldats. En Bordelais, dans la ville de Podinsac, il y avait un homme, un ancien missionnaire, qui avait pas mal bourlingué, notamment au Brésil, et qui avait une espèce de petite officine où il faisait des effets comme ça. Et il a fait un essai avec le vin blanc de Bordeaux, des vins blancs de Bordeaux et de la quinine. Et il a fait une boisson qui a été très rapidement récupérée par une société tenue par deux frères qui s'appelaient les frères Lillet et qui l'a commercialisée, qui l'a améliorée. Et c'est devenu par la suite une chose tellement agréable à boire qu'on en a fait un apéritif. Le Lillet blanc, le Lillet rouge. Et actuellement, quand vous buvez avec des amis un Lillet sur votre terrasse, vous n'imaginez pas qu'en fait, vous leur offrez un médicament.
C'est étonnant, non ?